Notre Dieu, on l'a entendu, a déjà tout accompli et c'est à nous de nous approprier de ce qu'il nous a accordé à la croix. J'ai bien apprécié cette phrase de Grégoire de Nyssens. Oui, c'est vrai que notre Dieu veut être désiré par nous. Je voudrais, frères et sœurs, vous saluer et vous dire que je suis dans la joie de vous retrouver, de retrouver l'Église, de retrouver les frères et sœurs pour voilà, une nouvelle année qui commence. Nous sommes au début du mois de septembre, qui est le 9e mois de l'année. Vous savez que 9e mois, c'est le mois de l'enfantement, c'est le mois de la victoire aussi. Je voudrais ce matin, à travers ce message, nous encourager à la victoire. Vous savez, le Christ est sorti vainqueur du tombeau, et cette victoire qu'il nous a obtenue, en réalité, ce n'est pas pour lui qu'il a fait ça, mais c'est pour nous. Donc il nous appartient de nous approprier cette victoire de Christ obtenue à la croix. Donc je voudrais ce matin, à travers ce message, en tout cas, nous encourager à une vie de victoire. J'espère apporter d'autres messages aussi dans ce sens. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous l'avons entendu, que tu as soif d'être désiré avec soif. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons soif de toi. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous croyons que tu es capable d'accomplir des grandes choses dans nos vies. Parce que nous savons aussi que tu en as déjà accompli dans le passé et que tu désires encore en accomplir de plus grandes. Nous voulons, Seigneur, écouter ta parole et nous prions que ton esprit souffle sur nous. Que ton esprit dispose nos êtres tout entiers, que ton esprit dispose nos cœurs afin d'accueillir ta parole telle qu'elle est, la parole de Dieu, qu'elle pénètre en nous, qu'elle nous change, qu'elle nous transforme et qu'elle nous accorde justement de mener chaque jour une vie de victoire. Une vie de victoire eu égard au péché, une vie de victoire eu égard au moi qui nous caractérise tout le temps et une vie de victoire aussi eu égard à Satan qui est notre accusateur. Oui Seigneur, accorde-nous la victoire comme Christ est sorti vainqueur du tombeau. Nous te rendons grâce pour la présence de chacun d'entre nous. Bénis-nous, nous te remettons aussi nos enfants que tu parle aussi à leur cœur, que tu prépares aussi leur cœur à vraiment t'accueillir, te recevoir comme Seigneur et Sauveur, et que tu puisses vraiment impartir la foi véritable dans leur cœur, de sorte qu'en grandissant, qu'ils ne se détournent pas du chemin que tu as tracé devant. Nous te bénissons, Seigneur. Parle-nous, tes enfants écoutent. Amen. Amen. Un verset tiré du livre d'Apocalypse, notamment au chapitre 12, Apocalypse chapitre 12 et particulièrement le verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11, je lis au nom du Seigneur, ils l'ont vaincu. Il s'agit du dragon, de Satan, de notre accusateur, hein, il est aussi appelé le serpent ancien dans le livre d'Apocalypse. Ils l'ont vaincu, donc le dragon, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Le message, je l'ai intitulé « La victoire sur trois ennemis ». Et c'est de ça qu'il est question dans ce verset, la victoire sur trois ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, nombreux sont des chrétiens qui voudraient être décrits comme des vainqueurs. Je ne sais pas si tel est votre cas, mais en tout cas, c'est véritablement mon cas. Je voudrais être décrit comme un vainqueur. Mais il est vrai que peu de chrétiens vivent une vie de vainqueur. Cependant, vaincre, en tout cas selon la Bible, vaincre, c'est la vie chrétienne normale. Mais en tout cas, la vie chrétienne normale, et non pas le privilège de quelques-uns. D'où la vie chrétienne devrait être caractérisée par la victoire. Et sur ce sujet, tous, mais vraiment tous, moi y compris, nous avons encore beaucoup à apprendre. Nous ne devrions pas accepter les choses telles qu'elles sont. Je dis bien que nous ne devrions pas accepter les choses telles qu'elles se présentent à nous, telles qu'elles sont. C'est un auteur qui dit ceci, Bernard Shaw, je cite, « Il y a des gens qui voient des choses comme elles sont et qui se disent pourquoi pas, enfin pourquoi sont-elles ainsi ?» Et tout en acceptant la situation. Et il y en a d'autres qui imaginent les choses, en tout cas, comme elles n'ont jamais été et qui se disent « Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ?» Ça veut dire que même si les choses se présentent ainsi, non, nous pouvons faire en sorte que les choses changent. Et nous, nous devons appartenir à cette deuxième catégorie. Nous ne devrions pas accepter les choses telles qu'elles sont sous prétexte, souvent c'est ce qu'on entend, que c'est la réalité. Nous devons plutôt aller auprès de Dieu, chercher ce qu'on appelle la vérité. C'est différent. Souvent, nous pensons que la réalité, c'est ce qui est vrai. Non, quelque chose peut se présenter devant nous comme étant la réalité, mais le plus souvent, ce n'est pas la vérité. Et la vérité se trouve auprès de Dieu. Devant la réalité, nous devons aller auprès de Dieu, lui demander « Est-ce que ce que je considère comme la réalité est à ton niveau la vérité ?» C'est ce que nous devons chercher, la vérité. D'après ce verset, frères et sœurs, un vainqueur présente trois caractéristiques principales. Pour cela, il est utile d'identifier les trois ennemis. Les trois ennemis qui se présentent à nous dans le cadre justement de ce verset. Et seul celui qui a appris à vaincre chacun d'eux peut être qualifié de vainqueur. Alors, qui sont-ils? Premier ennemi que nous présente ce verset, c'est le péché. Deuxième ennemi que nous présente ce verset, c'est le moi. Et enfin, le troisième ennemi que nous présente ce verset, c'est Satan. Le péché, le moi et Satan. Toutes les choses qui nous sont contraires, mais vraiment toutes les choses, qu'elles soient d'origine spirituelle, naturelle ou humaine, mais vraiment toutes les choses qui nous sont contraires, trouvent leur racine dans une de ces trois sources. Il est merveilleux de voir que les ressources de Dieu, notamment la providence divine, répandent à chacun de ces trois ennemis et les écrasent même afin de démontrer ce qu'on appelle la prééminence, la primauté de Christ. C'est cela, par essence, ce que signifie vaincre. Vaincre, frères et sœurs, c'est démontrer la prééminence du Christ au-dessus de toute chose. Bien sûr que s'il n'a pas d'abord la primauté, la prééminence, l'autorité, la domination en nous, ses disciples, il nous sera impossible de démontrer cette prééminence au monde. Notre façon de vivre doit prouver, doit démontrer à la face du monde que Jésus-Christ est Seigneur, notre façon de vivre. Alors, quelles sont les ressources de Dieu pour contrer ces trois ennemis? Pour l'ennemi qui est le péché, il y a le sang de Jésus. Pour l'ennemi qui est le moi, il y a la croix de Christ. Et pour l'ennemi qui est Satan, il y a ce qu'on appelle le trône. Le trône de Christ. Hébreux 4, 17, approchons-nous avec assurance du trône. Ces trois choses, frères et sœurs, le sang de Jésus, la croix de Christ et le trône de Christ, ces trois choses sont suffisantes pour répondre à tout ce que nous pouvons rencontrer. Je dis bien à tout ce que nous pouvons rencontrer. Elles sont contenues dans le verset que nous avons lu. Le sang de l'agneau est naturellement le sang de Jésus. La parole de leur témoignage fait allusion justement au trône de Christ. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, renvoie effectivement à la croix. Alors, nous allons donc examiner ces trois ressources de Dieu de façon plus particulière. Et ma prière, je prie que Dieu nous encourage, en tout cas, à vaincre à travers ces vérités. En parlant de la victoire sur le péché, la Bible dit ceci dans la première épître de Jean, 1 Jean chapitre 1 au verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Le premier ennemi auquel le chrétien est confronté, je disais, est le péché. Frères et sœurs, avant d'être chrétien, nous ne pensons jamais au péché. Nous jouissons du péché étant dans le monde, hein, en tout cas, mais sans pour autant penser véritablement que nous sommes dans le péché, que nous pratiquons le péché. Un homme n'est pas un pécheur parce qu'il pêche. Non, un homme pêche parce qu'il est pécheur. Je reprends, un homme n'est pas un pécheur parce qu'il pêche. Mais un homme pêche parce qu'il est pécheur, c'est-à-dire qu'il est pécheur dès l'origine. Nous sommes nés dans le péché. Bien que ce ne soit pas un enseignement populaire de nos jours, cependant, les Écritures mettent cela en évidence. À quel moment nous avons commencé à rentrer en conflit avec le péché? En tout cas, pas avant notre conversion. En tout cas, pas avant d'être devenu chrétien. Ensuite, quand nous nous sommes convertis, voilà, la présence du Christ en nous commence à nous rendre mal à l'aise quand nous péchons. Nous ne pouvons pas prétexter de notre ignorance. Le Christ vivant nous enseigne les choses qui plaisent d'un côté et les choses qui ne plaisent pas de l'autre côté à Dieu. Ainsi, le premier conflit, mais le véritable conflit, le premier dans l'expérience chrétienne, se situe entre ce qui est saint d'un côté et ce qui est péché de l'autre. Ceci explique d'ailleurs pourquoi un nouveau chrétien est tout le temps obsédé par ses propres péchés et peut être facilement découragé. Pour se dire, mais je n'y arrive pas, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux bien aller de l'avant, mais je n'y arrive pas. Il y a une grande partie de l'ancienne vie qui est toujours active en lui. Les vieilles habitudes, dit-on, en tout cas, meurent difficilement. Ainsi, il n'est pas étonnant qu'au début de la marche chrétienne, une grande partie, mais vraiment une grande partie de la bataille consiste à repousser le péché. C'est ainsi que cela devrait effectivement se passer. Mais il y a un problème si après avoir été chrétien pendant 10 ou 20 ans, nous sommes toujours à lutter, voyez, avec les mêmes anciens péchés. Une seule épine dans la chair peut être compréhensible, mais pas une ou deux douzaines. Non, alors cela ne veut pas dire, en tout cas, que nous arriverons à être sans péché. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, mais cela signifie qu'après une période raisonnable, nous ne devrions plus avoir à lutter encore avec les résidus de notre vie de péché antérieure. Après tout, le péché n'est qu'un des trois ennemis que nous avons à surmonter. Soyons clairs, si nous ne pouvons pas surmonter le péché, nous ne parviendrons jamais à surmonter le moi et Satan. Oui, soyons clairs à ce niveau. Un prédicateur d'ailleurs disait ceci, je cite, « Je suis entièrement d'accord pour prêcher contre le péché, mais il est dommage de devoir le prêcher toujours aux mêmes personnes après tant d'années et avec si peu d'effets. » Certains chrétiens continuent encore à mentir, à tricher, à voler, à médire et à semer la division, la discorde, et ce, quel que soit le nombre de fois qu'ils ont été enseignés sur ces sujets. Quelques chrétiens luttent toujours avec l'alcool, l'abus de la drogue, l'impureté sexuelle et les choses semblables. Le taux de divorce est aussi haut pour les mariages entre chrétiens qu'il ne l'est pour les autres. Il y a là quelque chose d'anormal. Fin de citation. La réponse de Dieu, frères et sœurs, au problème du péché est, d'après la Bible, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Selon 1 Jean chapitre 1, verset 7 que nous avons lu, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Ceci inclut les péchés passés et présents. Aussi longtemps que je continue à marcher dans la lumière, confessant mes péchés quand ils se produisent. Le sang ne me purifie pas seulement de ce que je fais, mais il me garde aussi de pécher à nouveau. Et on oublie souvent de dire cela. Chacun sait comment appliquer le sang après avoir péché? Mais combien de fois l'utilisons-nous, l'invoquons-nous pour nous garder du péché? Cela vaincra le dragon, appelé le serpent ancien, le diable et Satan, mais parce qu'il ne pourra trouver aucune raison pour nous accuser devant Dieu. Bien-aimés, sans cela, il est inutile de prendre position pour quelque chose de spirituel, car dès ce moment-là, en tout cas, Satan pourra légitimement nous accuser d'être comme tout le monde, ayant plein de péchés non confessés et non pardonnés du côté de Dieu. Le deuxième ennemi à surmonter après le péché, c'est le moi. À propos, Jésus déclare, « Si quelqu'un veut venir après moi, dit-il, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa propre personne, au propre moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Luc chapitre 9, verset 23. À bien des égards, cet ennemi qui est plus puissant que le péché, plutôt cet ennemi est plus puissant que le péché, mais parce que la force du péché, justement, est dans le moi. La force du péché est dans le moi. En effet, si nous sommes complètement morts à notre moi, je dis bien si nous sommes complètement morts à nous-mêmes, à notre moi, en tout cas, le péché ne trouvera plus aucun terrain favorable. C'est seulement lorsque notre moi est vivant que nous sommes tentés par le péché. Il est difficile de reconnaître et d'accepter d'ailleurs cet ennemi qu'on appelle le moi. Nous préférons penser à l'ennemi comme étant en dehors de nous. Mais la vérité est que le plus grand ennemi nous regarde en face. Mais vraiment en face toutes les fois que nous nous regardons dans un miroir. Il nous regarde en face. Nous devons comprendre que tout ce qui vient du moi est souillé. Je dis bien tout. L'apôtre Paul dit ceci, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Romains chapitre 7, verset 18. Certains n'ont pas appris cette leçon. Ils pensent encore et toujours qu'ils peuvent servir Dieu avec leur propre force, selon la chair, en faisant assez de bonnes œuvres pour en quelque sorte contrebalancer leurs mauvaises œuvres. Nous devons apprendre, comme Paul l'a appris, que le péché n'est pas la seule chose qui soit souillée, mais que les choses « bonnes » entre guillemets et appropriées qui viennent de l'homme, qui viennent de l'individu, sont également souillées. Il est facile d'identifier le mal avec le péché, mais parce qu'un tel comportement est désigné comme étant mauvais. Cependant, il est difficile d'identifier le mal dans le moi, mais parce que le moi peut nous inciter à faire beaucoup de choses apparemment bonnes. Vous voyez, le moi tel que lire la Bible, oui, le moi peut nous inciter à lire la Bible, le moi peut nous inciter à prier, le moi peut nous inciter à aller à l'église. Oui, le moi peut nous inciter à faire pas mal et même à témoigner de Christ aux âmes perdues, le moi. Mais Paul proclame que tout ce qui vient du moi, c'est-à-dire de la chair, n'a aucune valeur. Certains pensent qu'ils sont victorieux parce qu'ils ont depuis bien longtemps abandonné ce qu'on appelle les péchés extérieurs à la chair. Ils ne sont plus alcooliques, ils ne sont plus dans le mensonge et vivent, entre guillemets, une bonne vie. Ne sont-ils pas victorieux? Peut-être, mais le vrai test n'est pas le comportement extérieur, mais leur maîtrise. La maîtrise de soi, la maîtrise intérieure. Avant, ils servaient Satan et maintenant, ils disent qu'ils servent Dieu. Mais avec quelle force? Avec quelle puissance le servent-ils? Le servent-ils en esprit et en vérité ou dans la chair et dans le sang? Souvent, ils ne servent ni Dieu ni Satan, mais plutôt ils servent le moi. Ceci explique pourquoi des personnes qui vont à l'église s'estiment souvent justes à leurs propres yeux. Voyez, leur sainteté se compose de choses extérieures, un peu comme la religion des pharisiens. Ne pas manger, ne pas toucher, ne pas porter, ne pas dire, ne pas aller, etc. etc. C'est une religion qui se compose de choses à faire ou à ne pas faire, pour être vu et approuvé par les hommes. Tandis que les problèmes plus conséquents, comme l'orgueil, la jalousie, la médisance, etc., sont cachés. C'est une sainteté qui vient du moi et pas de Christ. Et par conséquent, la justice du moi n'est pas la justice que Christ nous a obtenue à la croix. La réponse de Dieu au problème du moi, frères et sœurs, est la croix de Jésus. Le sang s'occupe du péché, mais ce qui s'occupe du pécheur, c'est la croix. Le sang s'occupe du péché, et la croix s'occupe du pécheur. Le sang me nettoie du péché et me garde aussi justement du péché. La croix met le moi à mort, de sorte que je ne désire plus le péché. La croix, en s'occupant du pécheur, élimine, neutralise le problème du péché. Si je suis mort au moi, alors je suis mort à tout. Je suis mort à tout. C'est une chose de mettre le péché à part, mais c'en est une autre de mettre le moi de côté. Tous les deux sont nécessaires afin de vaincre, afin de mener une vie de vainqueur. Après le péché, ensuite le moi, Satan est le troisième ennemi qu'un chrétien doit vaincre. L'apôtre Paul a dit ceci dans Éphésiens chapitre 2, au verset 6. En parlant de Dieu, il dit qu'il nous a ressuscités ensemble avec Christ et il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes, donc au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Voilà notre position. Le nom de Satan signifie l'accusateur. Il est donc raisonnable de penser que pour vaincre l'accusateur, on ne doit rien trouver en nous, en tout cas ce qui donne du crédit à l'accusation. C'est pourquoi il est si important de comprendre d'un côté le sang et de comprendre de l'autre côté la croix. Si nous avons vaincu le péché et le moi par le sang et par la croix, alors, par conséquent, Satan n'a rien pour nous accuser. Mais en tout cas, rien pour nous accuser. La tâche première de Satan est d'accuser les frères, nous dit la Bible, nuit et jour devant Dieu, selon Apocalypse chapitre 2, verset 10. Nuit et jour. Quel est le but de cette accusation continuelle? Nuit et jour. Donc sans cesse, en train de nous accuser. Satan essaye essentiellement de faire quoi? Il essaye essentiellement de démontrer l'incohérence. L'incohérence entre le témoignage de Jésus et l'expérience réelle des frères. Vous voyez? En tout cas pour Satan, il le sait très bien. Il en est conscient. Pour Satan, Jésus a un témoignage éloquent. Jésus a un témoignage extraordinaire. Jésus a un témoignage sans faute, mais en tout cas, un témoignage sans tâche. Et ça, Satan en est conscient. Il le sait très bien. Mais ceux qui se réclament de lui, de Jésus, qu'en est-il pour eux? Ceux qui se réclament de lui, ceux qui se disent avoir Jésus dans leur vie, en tout cas, leur témoignage, est-il aussi cohérent ou rempli d'incohérence? Donc, Satan dit la chose suivante, en quelque sorte, à Dieu. Ces chrétiens-là disent représenter le royaume de Dieu, mais il n'y a aucune évidence de ce royaume dans leur vie. Voilà une accusation. Où sont les valeurs du royaume dans leur vie? Ils se disent du royaume de Dieu, mais nous voudrions voir les valeurs du royaume dans leur vie. Donc, ils se disent représenter le royaume de Dieu, mais il n'y a aucune évidence de ce royaume dans leur vie. Ils disent qu'en dehors de Dieu, il n'y a aucune puissance, mais ils sont eux-mêmes impuissants. Alors qu'ils se réclament de ce Dieu-là, ils disent qu'ils veulent la prééminence de Christ, la seigneurie, la primauté de Christ, mais observe à quelle vitesse ils s'en prennent les uns aux autres. Ce n'est rien que des paroles. Donc, c'est la preuve évidente que Christ ne peut pas changer les hommes à sa ressemblance. Voilà ce que Satan ne cesse de proférer comme accusation auprès de Dieu. Ainsi, jour et nuit, ce défi est présent devant Dieu. Comment allons-nous vaincre ces accusations? La réponse de Dieu est le trône. Le trône de Dieu. Vaincre Satan est en relation avec notre position. Avec notre position. Puisque nous sommes assis, dit l'apôtre Paul, dans les lieux célestes. Paul n'a pas dit que c'est quelque chose de futur, de plus tard. Non, Dieu nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Puisque nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, lorsqu'il a vaincu, nous avons aussi vaincu. Porter le témoignage de Jésus, c'est vivre sur la base de notre position. Je dis bien, porter le témoignage de Christ, c'est vivre sur la base de notre position céleste. Cependant, tout en ayant effectivement une existence terrestre. Quand la Bible dit C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Autrement dit, c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Mais quand la Bible dit ça, cela signifie qu'il n'y a aucun royaume si ce n'est celui de Dieu. Il n'y a aucune puissance si ce n'est celle de Dieu. Et il n'y a aucune gloire aussi si ce n'est celle qui doit revenir à notre Dieu. Se tenir debout dans cette vérité malgré toutes les évidences contraires que Satan, les hommes ou les circonstances peuvent fournir, c'est défendre le témoignage biblique qui dit qu'il n'y a aucun royaume si ce n'est celui de Dieu. Aucune puissance si ce n'est celle de Dieu. Aucune gloire, évidemment, si ce n'est celle de notre Dieu. Malheureusement, vous voyez, quelques chrétiens sont plus ardents pour proclamer en quelque sorte le royaume et la puissance des ténèbres que le royaume et la puissance de Dieu. Les personnes qui s'irritent de cet enseignement sont celles que Satan utilise pour perpétuer l'illusion de son contrôle. Ils aiment l'idée d'un diable puissant, mais parce qu'ils sentent, en tout cas, parce que cela leur donne en quelque sorte une excuse lorsqu'ils sont vaincus. Non, le diable n'est pas puissant. Et lorsque nous avons une quelconque défaite, ne confessons pas, c'est parce que l'ennemi est puissant. Non, c'est parce que nous avons eu une faiblesse, tout simplement. Et ces personnes sont devenues la proie, justement, d'une grande illusion. La vérité est que Satan n'a aucune puissance si ce n'est celle qu'il gagne à travers le péché et à travers le moi. Aucune. Quand nous aurons véritablement réalisé que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, alors nous vaincrons. Nous vaincrons aussi Satan. Toutes les activités de Satan, frères et sœurs, sont basées sur la déception et sur l'illusion. La vérité est que toute la puissance dans le ciel et sur la terre, en tout cas, a été donnée à Jésus. Il a dit dans Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Si Satan avait une telle puissance en lui, mais il n'aurait pas besoin d'utiliser de la déception et de l'illusion. Ceux qui parlent le plus fort de la puissance de Satan et des démons sont ceux qui ont écouté Satan depuis si longtemps et qui croient tout ce qu'il dit. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, Jésus a dit ceci en conclusion à mon message. « Celui qui vaincra, dit-il, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Quelle promesse glorieuse! Nous avons vu que les vainqueurs sont, en tout cas, présentent trois caractéristiques. D'abord, ils sont vainqueurs du péché par le sang de l'agneau qui non seulement les purifie de péché, mais aussi les garde du péché. Ensuite, ils sont vainqueurs du moi en prenant chaque jour leur croix pour suivre Jésus. Ainsi, ils ne s'appuient pas sur la chair, ni extérieurement, ni intérieurement. Enfin, ils vivent à partir de leur position céleste avec le Christ sur le trône, démontrant la victoire sur Satan qui n'a plus aucune raison pour les accuser. Quand nous sommes vainqueurs de chacun de ces trois ennemis, alors nous vainquons comme Christ a vaincu. Quand vous considérez le ministère terrestre de notre Seigneur Jésus, vous allez remarquer que son ministère, en tout cas, démontre bien sa prééminence au-dessus de chacun de ses trois ennemis. Il est celui qui est sans péché aussi bien que celui qui est sans le moi. L'ennemi ne peut le tenter en rien. Voilà pourquoi la mort, même la mort, ne pouvait pas le retenir. Impossible. En ce qui nous concerne, vaincre comme il a vaincu n'est pas aussi impossible que nous pourrions l'imaginer. La loi de la vie dit ceci, Jean chapitre 3, verset 30, « Qu'il croisse et que je diminue. » Donc, plus Jésus va croître en moi, c'est la victoire qui est en train de s'enraciner, de croître, ainsi de suite. « Qu'il croisse et que je diminue. » Quand Christ a la prééminence, a la primauté, la seigneurie en nous, nous commençons alors à connaître expérimentalement, c'est-à-dire à expérimenter ce que signifie être un vainqueur. Il faut que Christ grandisse en nous. Il faut que nous grandissions autrement dans la ressemblance à Christ. Nous pourrons peut-être échouer un millier de fois, mais lui, il n'échoue jamais. Il ne peut échouer, le Christ. Ainsi, nous avons simplement besoin de nous reposer en Christ pendant qu'il nous introduit dans la victoire qu'il a déjà remportée lui-même sur la croix. Il est temps, frères et sœurs, pour nous de mûrir, de grandir dans tout ce qu'il désire pour nous, d'apprécier et de s'approprier toutes les dispositions qu'il a prises en notre faveur en tant que plus que vainqueur. Car l'apôtre Paul a dit dans Romains 8, verset 27, qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est un superlatif. Un plus que vainqueur, c'est un vainqueur qui n'a pas eu à combattre. Nous n'avons pas eu à combattre. Et à cet effet, il est doublement vainqueur. Il est deux fois vainqueur, plus que vainqueur. Christ a combattu et a remporté la victoire. Lui, justement, est vainqueur. Et cette victoire m'a été donnée, a été inscrite dans mon compte. Donc, sa victoire est celle inscrite et celle inscrite dans mon compte, oui, justement, font de moi un plus que vainqueur. Voilà ce que nous sommes, frères et sœurs. Je précise qu'à la croix, nous n'avons pas du tout combattu. Mais que nous devons simplement nous approprier de la victoire de Christ. Nous pourrons ainsi marcher en vainqueur dans le péché, pardon, en vainqueur devant le péché, en nous appuyant sur le sang de Christ, en vainqueur sur le mort, en nous appuyant sur la croix de Christ, l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, et en vainqueur de Satan, en nous appuyant, en tout cas sur notre position en Christ et assis dans les lieux célestes, démontrons la victoire de Christ sur Satan, qui n'aura plus, mais je dis bien plus, aucune raison pour nous accuser. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ qui a tout accompli. Mais il a vraiment tout accompli. De sorte qu'il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Il a dit lui-même, tout est accompli. Et s'il a donné sa vie, s'il est mort à la croix, c'est pour nous qu'il a accompli toutes ces choses. C'est afin de nous donner la victoire dans ce monde. Nous l'avons entendu lors de la première partie, que ce monde est un désert. Un désert. Et ce monde est rempli de prédateurs. Et donc nous avons besoin de cette victoire pour marcher en vainqueur dans ce monde rempli de prédateurs. C'est un champ de bataille, ce monde. C'est comme le désert. Il y a des serpents venimeux et ainsi de suite. Mais Dieu a pourvu à tout. D'ailleurs, il nous a même donné un berger. Un berger qui est là pour s'occuper des brebis. Oui, Seigneur, accorde-nous de grandir dans la présence de notre berger. Accorde-nous chaque jour d'invoquer notre berger de sorte que lui puisse toujours marcher devant nous pour nous protéger, pour nous garder, pour nous préserver des prédateurs que nous trouvons dans ce désert. Seigneur, cette victoire, merci de nous l'avoir accordée. Merci parce que tu nous as ressuscités ensemble avec Christ, tu nous as fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Quelle est notre position que nous voulons vraiment revendiquer? Accorde-nous de vivre une vie de victoire. Une vie de victoire eu égard au péché, une vie de victoire eu égard au moi, et une vie de victoire eu égard à l'ennemi. Seigneur, que nos oreilles soient bouchées aux mensonges de l'adversaire. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci d'avoir fait de nous des vainqueurs, des plus que vainqueurs par l'œuvre que tu as accomplie. Qu'il en soit ainsi pour la vie de chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je laisse la place à Jean-Louis pour la suite. Nous allons partager le repas du séminaire.